Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1. Bon réveil. On écoute le monde changer. Il est 7h.
On sait qu'un possible reconfinement nous pend au nez, hein. Donc il y a du soleil, forcément, on va sortir, on va pas se priver, faut juste faire attention et voilà quoi.
Dernier moment d'insouciance, l'angoisse d'un reconfinement le week-end pour 20 départements sous surveillance renforcée. Certains ont fait le plein de soleil. En Moselle, la frontière n'est pas fermée, mais l'Allemagne a durci le ton. Dès demain, il faudra présenter un test négatif de moins de 48 heures pour traverser la frontière. L'heure du jugement pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Le parquet a demandé 4 ans de prison contre l'ancien chef de l'État. Et puis, les femmes enfilent le tablier, mais pas n'importe lequel. Celui du boucher. La profession se féminise. Après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu. On va parler de Viktor Orban qui s'est fait vacciner hier avec le Sinopharm chinois et de son homologue à Prague qui commande à Vladimir Poutine lui-même des Sputnik 5. Deux vaccins toujours pas approuvés par l'Agence européenne de santé.
Et puis l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Marseille sera toujours Marseille après la mise à l'écart du président Jacques-Henri Hérault. L'OM a une chance de retrouver son identité.
Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec vous Chloé Triomphe. Bonjour Chloé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Dernière ligne droite pour les 20 départements en surveillance renforcée. Leur sort doit se jouer cette semaine.
Avec notamment à la clé la possibilité de reconfinements locaux à l'image de ce qui s'est fait à Nice et à Dunkerque ce week-end. Avec le retour des attestations pour chaque sortie, certains en ont profité pour prendre l'air comme si c'était leur dernier week-end de liberté. C'est ce qu'a pu constater Nicolas Feldman.
Il règne comme un air de printemps sous le ciel de Paris, au bord de l'eau, des quais bondés. Pas facile de trouver un coin de bitume disponible.
Il ne reste plus trop de place pour s'asseoir et on a l'impression d'être sans Covid, quoi. Et ça fait du bien.
Ça fait beaucoup de bien. Ouais.
Un peu plus loin, Élise et Lou partagent une bière. Peut-être la dernière, redoute-t-elle avant un moment.
On sait qu'un possible reconfinement nous pend au nez. Hein. On nous laisse en suspens depuis des semaines. On avait commencé avec un couvre-feu à 18h qui devait durer 2 semaines. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas de nouvelles. Donc il y a du soleil, forcément. On va sortir, on ne va pas se priver. Faut juste faire attention et voilà quoi.
Mais une autre menace plane, celle de voir les quais fermés comme à Toulouse. La question est sur toutes les lèvres. Cela ne résoudra rien, estime Adeline.
Fermer les quais, ce serait déporter le problème ailleurs parce que si on ne se retrouve pas ici, on se retrouvera dans des parcs ou dans les apparts. Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Les gens trouveront une solution pour faire autre chose, quoi.
Pour ses amis, cela veut donc dire anticiper, sortir de Paris dès le week-end prochain pour aller se mettre au vert à la campagne.
Sans attendre de nouvelles mesures, la police est intervenue pour vider des quais trop remplis à certains endroits. Et puis à Toulouse, effectivement, la mesure a été encore plus radicale puisque les quais de la Garonne pris d'assaut samedi ont été fermés dès hier par les autorités.
Alors pour la Moselle, en revanche, le couperet est tombé hier soir.
L'Allemagne a classé le département en zone rouge, conséquence immédiate. Il faudra dès demain présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures pour passer la frontière. Les autorités françaises et allemandes ont négocié de pied ferme depuis plusieurs jours, Hélène Kohl.
Vu de Berlin, la France bénéficie d'un traitement de faveur, contrairement à ce qui se passe aux frontières avec la République tchèque et le Tyrol. Demain, il n'y aura pas de barrage de police, on pourra continuer de circuler librement entre les deux pays, à condition de prouver que l'on n'est pas porteur du virus. Un test antigénique suffira, ça aussi c'est une concession aux règles imposées normalement, qui exige un test PCR quand une zone est classée à très haut risque. Cela permettra aux travailleurs frontaliers de se faire dépister plus rapidement et aussi sur leur lieu de travail. La SAR a distribué 100 000 kits de tests aux entreprises de la région. Les élus locaux, français et allemands, espèrent encore réussir à faire plier Berlin aujourd'hui sur d'autres points, par exemple pour obtenir que les travailleurs ne soient testés qu'une fois par semaine et pas toutes les 48 heures. Même chose pour les familles à cheval entre les deux pays. Mais Berlin doit aussi jongler avec la colère d'un autre de ses partenaires, l'Autriche, qui ne comprend pas pourquoi la France obtient ainsi des passe-droits alors que rien n'est fait pour soulager l'engorgement à la frontière avec le Tyrol. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Les tests salivaires dans les écoles. Après la zone A, l'opération se poursuit ce matin pour les élèves d'Île-de-France, de Montpellier et de Toulouse qui rentrent de vacances.
C'est un dispositif qui va effectivement s'intensifier cette semaine, d'autant que l'opération qui a eu lieu toute la semaine dernière à Saint-Étienne a donné plutôt des bons résultats. Jean-Luc Boujon.
Au total, ce sont 950 tests salivaires qui ont été pratiqués la semaine dernière dans 6 collèges et 2 écoles primaires de la ville. Une opération qui a permis de détecter 3 cas positifs, tous asymptomatiques, qui ont immédiatement été isolés. Le principal enseignement de ces tests salivaires, c'est que les élèves et leurs parents ont adhéré à la méthode, explique Dominique Poggioli, inspecteur d'Académie de la Loire.
On a été surpris, par exemple, sur une école, on était parti sur 60 ou 70 comme d'habitude, et là on est monté tout de suite à 92. Ou sur une autre école, on s'attendait à 20% qui répondent, et là on est monté à 40%. Donc manifestement, le test salivaire permet peut-être de tester un petit peu plus.
Effectivement, le principe du crachat dans une pipette effraie moins, confirme Anne Magali, dont le fils collégien en 4e a été testé la semaine dernière.
Lui, au début, il était assez réticent parce qu'il n'avait pas envie de refaire un test avec les couvillons dans le nez. On avait fait plusieurs, il n'avait pas aimé du tout. Donc là, le fait que je lui ai dit que c'était un test où il y avait juste à cracher dans un tube, il était plus enclin à le faire.
Et alors, après coup, qu'est-ce qu'il en a pensé ?
Après coup, il a trouvé que c'était simple. Ça l'a pas perturbé outre mesure.
Voilà, donc bilan positif pour cette opération qui va encore monter en puissance cette semaine dans la Loire avec encore plus d'écoles testées. Saint-Étienne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
7h06 sur Europe 1. C'est aujourd'hui que Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort dans l'affaire dite des écoutes.
Décision à 13h30 à Paris dans un dossier où l'ancien président de la République est soupçonné de corruption et de trafic d'influence. Le parquet national financier a requis 4 ans de prison dont 2 fermes. Et pourtant, Guillaume Bié, Nicolas Sarkozy a toujours clamé son innocence, y compris lors du procès.
Oui, serein, c'était l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy à la sortie de l'audience il y a 3 mois. D'après son entourage, l'ancien chef de l'État a été satisfait d'avoir pu s'exprimer pleinement lors de son procès et démontrer la vacuité de l'accusation. Un désert de preuves, avait souligné son avocate Jacqueline Lafont, qui avait plaidé la relaxe de l'ex-président. Épaulé tour à tour dans la salle par ses fils et son épouse, c'est un Nicolas Sarkozy offensif qui s'était défendu durant des heures à la barre, n'hésitant pas à rejouer les conversations captées sur écoute pour mieux démontrer l'absence d'un quelconque pacte de corruption. C'est pourtant la thèse soutenue par les 2 magistrats du parquet national financier. Pour eux, il y avait bien une contrepartie, la promesse d'un coup de pouce pour la nomination de Gilbert Azibert à Monaco. Et même si ça ne s'est jamais concrétisé, cette simple promesse clairement formulée suffit, d'après eux, à caractériser l'infraction. Ma vie a été de donner des coups de pouce pendant 40 ans de vie politique. C'était tout simplement justifié, Nicolas Sarkozy.
Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1.
Carlos Ghosn affirme avoir été lâché par la France. L'ex-PDG de Renault-Nissan s'est exprimé à l'occasion de son nouveau livre à apparaître mercredi.
Il s'est exprimé en exclusivité sur Europe 1 sur ce livre coécrit avec Carole, sa femme. L'homme d'affaires s'était, souvenez-vous, enfui du Japon après avoir été interpellé et inculpé d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance. Et dans ce livre, Carlos Ghosn clame son innocence. Il reproche aussi à la France de n'être pas venue à son secours. Il s'est donc confié hier matin au micro d'Europe 1 à Frédéric Taddeï.
J'ai appris par ailleurs que le jour de mon arrestation, l'ambassadeur des États-Unis au Japon a communiqué à l'ambassadeur de France au Japon en disant si M. Ghosn était le patron de General Motors, il serait pas resté arrêté 24 heures, on l'aurait rapatrié aux États-Unis et si vraiment il y a des problèmes, à ce moment-là, on en discute dans son pays.
Une version qui laisse pourtant l'ex-ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, extrêmement dubitatif.
On ne voit pas pourquoi un ambassadeur des États-Unis irait se vanter comme un gosse de 15 ans. Sauf si l'ambassadeur des États-Unis à Tokyo est vraiment un aventurier bavard, ça me semble plutôt peu probable. Je n'en vois pas l'intérêt et j'en vois les risques d'être répété, d'être cité et il s'aliénerait ainsi les Japonais. Tout cela, pour moi, ça fait vraiment très français, notamment réduire la justice à des arrangements politiques. Vous savez, quand j'ai été ambassadeur, il m'est arrivé à plusieurs reprises que des nationaux français aient des problèmes avec la justice locale. Et à chaque fois, j'étais frappé d'être approché par des amis ou par l'avocat de la personne en question pour me dire « naturellement, vous allez le faire sortir de prison ou le faire rentrer en France ». Et ils étaient toujours surpris que je leur dise « mais attendez, la justice de ce pays est une justice indépendante. Personne ne peut le faire, même pas les autorités locales. Et si j'intervenais, ça risquerait d'être plutôt contre-productif. »
Propos recueilli par Caroline Baudry pour Europe 1.
Qui a dit que la boucherie était un métier d'homme ?
Il faut dire que majoritairement, c'est souvent monsieur couteau à la main et madame à la caisse. Mais c'est en train de changer. La profession se féminise. Pour preuve, la finale du concours national des meilleurs apprentis de France, catégorie charcutier traiteur, compte 2 femmes parmi les 20 concurrents. Et ce qui est certain, c'est qu'une femme dans une boucherie, eh bien, ça se remarque. Reportage à Paris avec Damien Mestre, qui a rencontré une jeune bouchère de 23 ans.
Dès qu'il y a un nouveau client, on s'en rend compte parce qu'il me dit « Ah, une femme !» Et du coup, je fais « Ah, vous êtes nouveau client
!» Derrière son étal, Lucie prépare tranquillement un filet de veau. Effectivement, les femmes sont rares à ce poste. Un constat que la jeune bouchère ne comprend pas vraiment.
On peut tous faire le métier, hein. C'est pas si difficile que ça de prendre une carcasse, de la désosser correctement.
La profession n'est plus aussi physique qu'avant. C'est ce qui laisse la place aux femmes, selon elle. Alors, en arrivant dans l'entreprise, c'est une conversation franche qu'elle a eue avec l'employeur.
S'il a des choses à me dire sur mon comportement, il me les dit. S'il a quelque chose à me dire sur mon travail, il me le dit. Parce que après, si on est trop chouchouté tout ça par le patron, les gens ils disent « Ah ouais, elle est valorisée dans le fait que ce soit une femme, etc. » Alors que non, moi je veux être comme les autres.
Les lignes semblent bouger donc, en tout cas au sein d'une nouvelle génération de bouchers, à l'image de son collègue Enzo, 22 ans.
Je ne vais pas faire de blagues lourdes auprès d'une fille, surtout pas, j'ai du respect pour ça. Et justement, des jeunes bouchers comme ça, c'est ce qui va faire changer la vision du boucher un peu beauf, un peu ancien. Elles sont la bienvenue, il n'y a aucun problème pour bosser, quoi.
Un changement qui prend du temps quand même. Dans sa classe, sur 40 apprentis, Lucie était la seule et unique femme.
Un reportage Damien Mestre. Et puis les derniers résultats de la 27e journée de Ligue 1. Marseille a arraché le nul un but partout face à Lyon qui glisse à la 3e place. Quant à Lille, il reste leader malgré un nul face à Strasbourg. Un but partout également.
Merci beaucoup Chloé Triomphe. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Ce matin, de la philosophie pour traverser la période. Ça ne peut pas faire de mal. Roger Paul Droit qui publie « Le sens des limites » aux éditions de l'Observatoire. Réflexion sur la notion même de limite, la contrainte, bien sûr, mais aussi la frontière, la protection parfois. Échange avec Roger Paul Droit dans le tête-à-tête Europe Matin. C'est à 7h40. Mais tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu. Comment faire pour que les Français dépensent l'argent mis de côté pendant la crise? Le gouvernement a des idées.
Avant le regard international de Vincent Hervouette, bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1. Il est 7h14 sur Europe 1.
L'éclairage éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
On le sait, les Français ont accumulé beaucoup d'épargne pendant la crise du Covid. Moins de sorties, moins de loisirs, moins de voyages. Bercy veut maintenant encourager les gens à dépenser.
Oui, alors vous savez, on estime que ce surcroît d'épargne, c'est à peu près un bon 100 milliards d'euros. Ce sera même peut-être autour de 200 milliards à la fin de l'année. Alors évidemment, ça donne des idées aux uns et aux autres. Surtout de mauvaises idées d'ailleurs, car après tout, si vous mettez de l'argent de côté, ça vous regarde. Personne ne peut vous forcer à le dépenser. À gauche, de plus en plus de voix réclament, devinez quoi, que l'on taxe cette épargne. Alors on ne le dit pas comme ça, on parle de contribution exceptionnelle. Ça fait moins violent que hausse d'impôts, mais enfin c'est la même chose. Argument, cette épargne a surtout été accumulé par les plus aisés. C'est assez extraordinaire d'ailleurs, les partisans de cette taxe découvrent qu'il est plus facile de mettre de l'argent de côté quand on gagne bien sa vie que quand on est juste.
Mais cette idée de taxe, pour le coup, elle est rejetée par le gouvernement.
Ah, c'est très clair, oui. Bruno Le Maire a été très clair, pas question, c'est un engagement politique. Les économistes eux-mêmes sont d'ailleurs très réservés sur les effets que pourrait avoir une taxe exceptionnelle. Les ménages pourraient être incités à épargner encore plus en prévision de futures hausses d'impôts. Ce serait le contraire de les faire chercher. Et puis enfin, on compte sur la consommation, après tout, pour tirer la reprise dans les mois qui viennent. Donc taxer les consommateurs risquerait de brider la dynamique de reprise que l'on espère.
Alors comment est-ce qu'on fait pour que l'épargne accumulée alimente la reprise?
Alors, l'une des pistes auxquelles réfléchit Bercy, ce serait de faciliter les prêts ou même les dons entre les générations. Aujourd'hui, les donations en ligne directe, c'est-à-dire à un enfant, sont plafonnées à 100 000 euros. Au-delà, c'est fiscalisé. On pourrait donc relever ce plafond pour que l'argent circule mieux entre les générations. Autre piste proposée, celle-là par l'opposition, par Éric Woerth, le président de la commission des finances à l'Assemblée, la création d'un livret Covid, un livret d'épargne dont les fonds seraient garantis par l'État et investis dans les petites entreprises. Vous le voyez, il y a des pistes, mais on sait bien que la meilleure manière pour que les Français consomment, c'est encore que l'on accélère la vaccination et que l'on puisse rouvrir au plus vite l'économie. Bref, que l'on donne une perspective, comme vient de le faire Boris Johnson au Royaume-Uni, car tout retard se paye très cher.
Ouais, 100 milliards d'euros épargnés, peut-être 200 à la fin de l'année. D'un mot, Nicolas, le plan de relance ?
100 milliards.
100 milliards, voilà ce que ça représente. Rendez-vous compte du sujet de l'épargne des Français. Merci Nicolas Barré. L'éclairage éco tous les matins sur Europe 1.
C'était l'éclairage éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Rebonjour Mathieu.
Alors écoutez Vincent, c'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, au moment où il se fait vacciner devant les caméras. Alors voilà ce qu'il dit, vous pouvez voir que je n'ai pas le moindre problème, vous n'en aurez pas non plus. La troisième vague attaque, elle sera plus forte que les deux précédentes. Veuillez vous inscrire et vous faire vacciner, dit-il. Alors bien sûr, c'est de la communication politique. Quoi qu'il en soit, les vaccins russes et chinois débarquent en Europe.
Oui, mais Viktor Orban est très convaincant, hein, l'ordonnance à la main comme Monsieur Tout-le-Monde, tombant la chemise et faisant le fier à bras en gonflant ses biceps devant l'infirmière. Il porte un masque et reste stoïque quand l'aiguille s'enfonce. C'est pas le premier dirigeant européen à faire ce petit numéro d'exhibitionnisme sanitaire en liquette, mais c'est le premier à le faire avec un vaccin qui n'a pas encore été approuvé par l'Agence européenne des médicaments. Il explique qu'attendre les vaccins européens coûteraient trop cher. Ça coûterait la vie à 100 Hongrois par jour. Avec cet argument imparable, il annonçait il y a 15 jours l'achat massif de Sputnik V, le vaccin russe. On ne peut même pas lui reprocher de servir d'agent d'influence ou d'agent commercial au Kremlin, puisqu'hier, il s'est fait injecter une dose de Sinopharm, le produit chinois. Et visiblement, ça lui a plu. Défier Bruxelles lui plaît toujours. Cette injection est bien un défi au lendemain d'un Conseil européen qui prétendait montrer que l'Europe se coordonne.
La Hongrie n'est pas la seule à recourir au vaccin russe.
Hier, le président tchèque a passé commande à Vladimir Poutine en personne. Il explique qu'il faut bien pallier les retards européens. Selon lui, les vaccins n'ont pas d'idéologie. C'est le contraire, en fait. L'idéologie est partout. En Chine et en Russie, trop heureuse de venir au secours de cette Europe incapable de se protéger toute seule. Les pays eurosceptiques, eux, sont confortés par le fiasco de la négociation avec les labos menée par des bureaucrates de la Commission tatillons et avaricieux. Et en face, Bruxelles vitupère, comme d'habitude, le nationalisme vaccinal. Il n'y a pas de vaccin contre la mauvaise foi. Paris doute à haute voix du vaccin AstraZeneca injecté après d'un Britannique sur trois. C'est pure jalousie. Et Berlin pratique le chacun pour soi après avoir imposer le confinement, c'est-à-dire le chacun chez soi.
L'Allemagne restreint les passages à la frontière française.
Oui, c'est encore une entorse à la libre circulation, mais l'Allemagne ne verrouille pas la frontière avec la Moselle. Elle ne traite pas les Alsaciens de la même manière que les Tchèques et les Autrichiens qui dénoncent du coup deux poids, deux mesures. On dirait en fait que le couple franco-allemand résiste alors que le Covid grippe la machine européenne.
Merci Vincent Hervouette, le regard international tous les matins sur Europe 1. Il est 7h19, tout de suite l'édito sport de Virginie Fulpin, juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors bon, les langues étrangères, je ne sais pas si vous les pratiquez, baragouiner. On sait toujours, ils baragouinent, d'où ça vient baragouiner? Je vous réserve, c'est une petite surprise dans un instant.
A tout de suite sur Europe 1, 7h19. 7h21, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'OM et Lyon ont fait match nul un partout hier soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Alors que l'OM a connu une vraie révolution en coulisses ce week-end avec la mise à l'écart du président Jacques-Henri Hérault. Pour vous, l'Olympique de Marseille a enfin une chance de retrouver son identité d'ici à la fin de la saison.
Alors l'OM ne sera pas champion de France, hein, mais entre ce match nul contre Lyon et la rencontre face à Lille mercredi, les Marseillais peuvent jouer les arbitres dans ce combat pour la première place. Et par les temps qui court, bah c'est déjà pas si mal. L'entraîneur intérimaire Nasser Larguet avait demandé à ses joueurs de rester dans leur bulle en ce week-end de révolution marseillaise. Et visiblement, elle a été plus hermétique que la bulle sanitaire autour du 15 de France. Hein. Les Marseillais ont montré du caractère pour arracher ce nul. Nasser Larguet a apaisé le climat autour et dans l'équipe depuis qu'il a remplacé l'entraîneur démissionnaire et mis à pied, hein, André Villas-Boas, il y a un mois. Alors que ces derniers temps, le fonctionnement de l'OM se basait surtout sur les provocations permanentes de la direction et le manque de sérénité à tous les étages. On pourrait presque l'appeler le pacificateur Nasser Larguet. Même Florian Thauvin et Dimitri Payet ont retrouvé un semblant de goût de jouer ensemble. C'est vous dire, le nouvel entraîneur Jorge Sampaoli va prendre ses fonctions demain face à un groupe un peu moins désuni. C'est plus simple pour mettre sa patte sur l'équipe. L'Argentin, au tempérament tempétueux, vit le football avec passion, un profil qui colle au club et à la ville. Ça pourrait être le joli symbole d'un OM qui ne renie plus son identité.
Le propriétaire de l'OM, Franck McCourt, arrive aujourd'hui à Marseille pour rencontrer les élus de la ville et les supporters.
On dirait qu'il y a eu un déclic dans la tête de Franck McCourt, comme si la crise de ces dernières semaines avait fini par le convaincre qu'on ne dirige pas un club sans ses supporters, sans les personnalités et les élus qui gravitent autour. Comme s'il avait enfin réalisé que les discours méprisant de Jacques-Henri Hérault, ne menait nulle part, sinon dans le mur. Il a entendu la colère des Marseillais, et rien que ça, on peut le mettre à son actif. Alors on ne va pas être naïf, tout ne s'éclaire pas d'un jour nouveau d'un seul coup. Le nouveau président, Pablo Longoria, du haut de ses 34 ans, a du pain sur la planche, mais au moins il aime le foot, il connaît son fonctionnement, c'est lui qui a choisi le nouvel entraîneur. Ça laisse peut-être augurer une fin de saison intéressante. Quelques semaines, quelques mois où on entendra moins de portes qui claquent, de rumeurs sur la vente du club et de manifestations qui dégénèrent pour suivre une équipe qui peut et doit jouer les arbitres dans la course au titre de champion de France. Un peu moins de Champions Project et d'OM Arena et un peu plus de football, tout simplement.
Oui, oui, avec le match de Marseille contre Lille.
Mercredi.
Attendu cette semaine. En tout cas, les Marseillais jouent les arbitres. Alors, vous évoquiez, non sans malice, hein, je vous connais, Virginie Fulpin, la bulle sanitaire autour du 15 de France. Sachez qu'on entendra Bernard Laporte.
La quoi ?
La bulle sanitaire. Oui, j'arrive, même moi, j'ai du mal à le dire. Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, vous l'entendrez dans le journal de 8h. Il a pris la parole hier. Merci, Virginie Fulpin. 7h24 sur Europe 1. Et nous retrouvons Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour Virginie. Quand parfois, durant cette chronique, je vous donne des expressions en espagnol ou en anglais dans le texte, il est possible qu'intérieurement, vous vous dites, cher Mathieu, mais qu'est-ce qu'il baragouine ? Baragouine, baragouinez-les. Au fond, d'où vient cette expression ?
Alors jamais, pour répondre à votre question, mais baragouiner, c'est quand on parle mal une langue, quand on essaie de le faire, mais que le résultat n'est pas terrible. Alors si pendant un karaoké, il y a une chanson de Queen, souvent même avec les paroles affichées, on baragouine du Freddie Mercury.
Ah, je vois que ça sent le vécu chez vous. En fait, baragouiner vient de la langue bretonne. À la fin du 19e siècle, durant la guerre franco-prussienne, les soldats bretons avaient toutes les peines du monde à se faire comprendre. En fait, ils ne voulaient pas vraiment se faire comprendre, ils voulaient surtout deux choses, du pain et du vin. Le pain se dit bara et le vin gouine. Pour résumer, ils arrivaient dans une auberge et disaient bara, gouine. Il en fallait pas plus pour faire naître le baragouinage.
Vous faites moins bien le soldat breton. Hein,
voilà l'explication. À moins que l'origine de cette expression ne vienne d'une toute autre provenance. Pour Gilles Ménage, un linguiste du XVIIe siècle, le baragouin vient de barbaracuinus, c'est du latin. Ce mot est un dérivé du grec barbarus, barbare, et barbaracuinus, eh bien, c'est le bredouillement. Chose étonnante, en breton, pour dire baragouiner, on dit grégachigne, à savoir parler grec. Vous voyez ? La boucle est bouclée. Voilà, je ne sais pas vous, mais personnellement, je préfère largement l'histoire des bretons affamés et coiffés qui arrivent dans une échoppe et s'exclament baragouine, c'est tellement plus sympathique.
Je vais l'essayer, moi, on arrive, quand ils rouvriront un
oui,
bar.
Oui, c'est ça, pour l'instant, ça va être compliqué.
Je me suis pris à rêver d'un seul coup que les bars étaient ouverts. On vous retrouve à 16h, Stéphane Bern, pour Historiquement Vôtre.
Oui, aujourd'hui, on réunit Eugène de Beauharnais, qui fut le beau-fils de Napoléon, puis son fils adoptif, Charlotte Chapuis, qui pourrait être sa fille légitime, qu'il aurait eue avec une prostituée, je parle de Napoléon, évidemment. Et pas d'un enfant de Napoléon, mais Napoléon lui-même, ou presque, Franck Sanson, avocat et sosie officiel de Napoléon de 2005 à 2015. Oui, aujourd'hui, vous l'avez compris, on réunit non pas Napoléon, mais ceux qui avaient un peu du sang de Napoléon.
C'est le sosie officiel de Napoléon.
Oui, il y en a. Ah, mais j'en ai
écouté, c'est sûr. Je vais écouter, c'est sûr. 16h-18h, Historiquement Vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Il est 7h27. Dans quelques toutes petites secondes, Laurent Cabrol, la météo. Très bon réveil à tous. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Couvrez-vous mes amis, couvrez-vous, il fait froid mais c'est éphémère. Hein. J'ai encore baissé les températures par rapport à celles que je vous donnais tout à l'heure. Moins 4 à Colmar et Charleville en ce moment, moins 3 à Mulhouse et Épinal, à Nevers, Vichy et Nancy, moins 2, 0 à Orléans, 1 à Lyon et à Caen comme à Poitiers et Besançon, 2 degrés en banlieue parisienne, 3 à Lille, 5 à Paris-Ville, 6 à Cognac, 8 à Bordeaux et 9 degrés dans Contigny-Soire. Voilà, et même 10 degrés à Toulouse. Voilà pour les températures, la couleur du ciel, ma foi, c'est simple, hein, parce que le temps est dégagé sur la plupart des régions de France. Je dis la plupart parce que sur le Béarn, le Piémont Pyrénéen, l'Aude et l'Hérault, vous aurez des passages nuageux dus à des vents marins, dus à des vents de sud-est ou dus à des vents pyrénéens. Mais dans l'ensemble, eh bien, ce sera une journée ensoleillée. Profitons-en. D'ailleurs, le début de semaine est pas mal. Hein, lundi, mardi, mercredi, c'est bien. Il fera un peu frais, mais dans la journée, ce sera tout à fait, magnifique. Hein, allez, on ne peut pas perdre des mots. Ce sera magnifique côté ciel parce que le soleil va rayonner de manière assez intense. Et puis, je disais éphémère, les températures, elles vont remonter. Et à partir de jeudi, eh bien, nous retrouverons un petit peu de pluie. Ça, c'est pas moins... Non, ça ne va pas durer. Allez, ça ne va pas durer. Je suis en train de regarder en même temps que je vous parle. Ça ne va pas durer. La pluie va rester à peu près 2-3 jours. Et ensuite, le temps va s'installer de nouveau vers le beau temps.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
Hello CPAC, do you miss me yet? Do you...
Est-ce que je vous manque déjà ? La question qu'a posée Donald Trump cette nuit à ses partisans. L'ancien président américain prononçait son tout premier discours depuis son départ de la Maison Blanche et le ton reste le même. À partir de demain, un test Covid négatif sera obligatoire pour entrer en Allemagne depuis la Moselle. Pas d'exception pour les travailleurs frontaliers. Dans ce journal, un coup de neuf sur les étiquettes énergie de vos appareils électroménagers à partir d'aujourd'hui. Et puis 4 récompenses pour The Crown, la série Netflix largement couronnée aux Golden Globes la nuit dernière.
Juste après ce journal, La Touche Âme, Bertrand Chameroy, Roger Paul Droit, philosophe, écrivain, co-auteur de l'ouvrage Le sens des limites aux éditions de l'Observatoire, invité du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique, Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu. On se posera une question autour de la réforme de l'assurance chômage. Au fond, est-ce qu'il faut absolument faire une réforme, quitte à la faire au rabais, pour l'inscrire à un bilan?
Juste avant Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale, aujourd'hui Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, chargé d'une mission sur la formation des professeurs à la laïcité à l'école. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Donald Trump fait donc son retour dans l'arène politique un peu plus d'un mois après avoir quitté la Maison Blanche. L'ancien président américain a été hier soir à Orlando, en Floride, pour clore la conférence annuelle des conservateurs, son premier discours depuis qu'il a quitté ses fonctions.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, pas de grande annonce à retenir, mais un Donald Trump, comment dire, fidèle à lui-même.
Oui, comme un retour en campagne. Do you miss me yet? Est-ce que je vous manque déjà ? Lance Donald Trump pour commencer son discours d'une heure et demie. L'ancien président s'attaque à la politique de Joe Biden. In just one short month, en un petit mois, on est passé de l'Amérique en premier à l'Amérique en dernier. To America last. Donald Trump s'attribue les mérites de la campagne vaccinale aux États-Unis, mais ne mentionne pas les 512 000 morts du Covid depuis un an. Et surtout, il répète ses allégations mensongères de fraude électorale. Nous avons gagné 2 fois les élections. Mais qui sait, je pourrais même décider de les battre une 3e fois. Devant un public acquis à sa cause qui se lève à plusieurs reprises, Donald Trump s'affirme comme le leader du Parti républicain. Nous avons le Parti républicain, il va être plus fort et plus uni que jamais. Je ne crée pas de nouveau parti. Et il veut faire le ménage, il cite les noms de tous les républicains qui ont voté l'impeachment. Débarrassez-vous d'eux, dit l'ancien président revanchard, car Donald Trump a les chiffres de son côté. D'après un sondage, 55% des participants de cette conférence voteraient pour lui pour représenter les républicains en 2024.
Alexis Guilleux aux États-Unis pour Europe 1.
La Moselle est désormais classée zone à risque par Berlin à cause de la forte circulation des variants du virus dans le département.
Et dès demain, il faudra un test Covid négatif de moins de 48 heures pour entrer en Allemagne, y compris pour les travailleurs frontaliers, même si Paris a plaidé en leur faveur hier. Alors Jean-Rémy Baudeau, comment se sont déroulées les négociations ?
Eh bien, cela fait plus d'une semaine que Paris demande du temps à Berlin. Plus d'une semaine que la Moselle, à cause de son taux d'incidence, aurait dû passer en zone à risque pour les Allemands. Plus d'une semaine que la diplomatie s'est accélérée. On a évité l'effet domino, se réjouit le Quai d'Orsay, qui a bien noté que la République tchèque et l'Autriche n'ont pas eu les mêmes faveurs de Berlin. À la manœuvre, Emmanuel Macron, en discussion avec Angela Merkel toute la semaine, c'est la chancelière en personne qui annonçait vendredi au président français que la Moselle allait basculer. À Clément Beaune, ministre de l'Europe, le soin de tenter de déminer le dossier jusqu'à hier soir. Résultat, pas de fermeture de frontières, mais une petite victoire pour la France et ses 16 000 travailleurs transfrontaliers qui devront néanmoins faire un test toutes les 48 heures. Là encore, la négociation a été serrée. Berlin voulait un PCR. Paris a obtenu un antigénique. Les mesures actuelles sont prises jusqu'à nouvel ordre, mais la Moselle, c'est l'illustration de 2 visions de la gestion de la pandémie. D'un côté, la France, qui promeut désormais le vivre avec le Covid et tente de limiter les restrictions. De l'autre, l'Allemagne, qui aimerait éradiquer le virus et prêche la manière forte.
Jean-Rémy Baudeau, plus besoin de tests PCR en revanche pour les habitants des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège qui reviennent d'Andorre à partir d'aujourd'hui. Une dérogation accordée par le gouvernement français qui vaut uniquement pour les déplacements de moins de 24 heures. C'est aujourd'hui que Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président est poursuivi pour corruption et trafic d'influence. Le parquet national financier requiert 4 ans de prison, dont 2 fermes.
Nous sommes le lundi 1er mars. Il va y avoir du changement sur les étiquettes énergie de vos produits électroménagers.
Et terminer les A+, A++, A++++ créés il y a 25 ans, place à une classification plus simple de A à G. Des étiquettes plus lisibles affichées sur tous les appareils de froid et de lavage, mais surtout une plus grande exigence, Élise Dangean.
Oui, alors l'idée, c'est de pouvoir mieux comparer et différencier les produits, car avec l'ancienne étiquette, tous les appareils de dernière génération étaient systématiquement classés A. Rendez-vous compte, il pouvait y avoir jusqu'à 70% de différence de consommation d'énergie entre un appareil classé A+ et un triple+. Il a donc fallu remettre de l'ordre avec un nouveau calcul plus ambitieux, comme l'explique Michael Roguet, directeur de la transition écologique chez Boulanger.
La grille a été faite de manière à ce qu'il n'y ait pas aujourd'hui d'appareils sur le marché qui soient catégorisés A. Le but, c'est justement d'encourager aussi les fabricants à fabriquer des produits plus innovants, moins consommateurs d'énergie, et d'encourager tous les consommateurs à choisir des produits moins énergivores, à savoir qu'on le sait aussi, et c'est indiqué par la Commission européenne, il y a une volonté au fur et à mesure aussi de supprimer les grades les plus énergivores de l'indice énergétique.
Selon la Commission européenne, la révision de l'étiquette énergie devrait permettre de réaliser des économies non négligeables, en moyenne 150 euros par an et par foyer.
Et les distributeurs ont 18 jours pour se mettre en règle. Les étiquettes des ampoules attendront le mois de septembre.
Et puis la 78e cérémonie des Golden Globes s'est déroulée la nuit dernière, virtuellement bien sûr pour cause de pandémie.
Et carton plein pour la série The Crown. 4 récompenses, dont celle de la meilleure actrice dans une série dramatique.
And the Golden Globe goes to Emma Corrin, The Crown.
Voilà, le Golden Globe pour Emma Corrin, qui interprète la princesse Diana dans la dernière saison de The Crown.
Thank you so much, the HFPA, for this.
Beaucoup d'émotions chez Emma Corrin. Merci beaucoup, merci à mon incroyable équipe d'avoir été à mes côtés tout ce temps. Et merci infiniment à Diana, au nom de tous ceux qui se souviennent de vous aussi tendrement et passionnément dans leur cœur. Merci. À noter aussi que Sacha Baron Cohen remporte le trophée du meilleur acteur dans une comédie pour Borat 2. Et puis Chadwick Boseman, décédé d'un cancer l'été dernier, a été nommé à titre posthume meilleur acteur dramatique pour son rôle dans Le Blues de Ma Rainey.
Merci beaucoup, c'était complet. Sophie Echen, le journal de 7h30 sur Europe 1. Il est 7h35.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15 ce matin, un homme dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Il a alerté sur le risque de radicalisation à l'école depuis les années 2000. Aujourd'hui, il est chargé d'une mission sur la formation des professeurs à la laïcité. C'est l'invité politique de la matinale, c'est à 8h15. Le tête-à-tête Europe Matin dans un instant avec le philosophe Roger Paul Droit, mais d'abord, tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, il a fait beau ce week-end. Conséquence, des gens dehors se sont plaints du fait qu'il y avait des gens dehors.
A tout de suite sur Europe 1. Il est 8h20 sur Europe 1, l'heure de retrouver Bertrand Chameroy, la touche âme. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous avez passé un bon week-end ?
Écoutez, oui, très bon week-end, je vous remercie. J'espère que vous aussi. C'était agréable. Hein. Et puis, c'était impressionnant. Vous avez aussi, vous avez assisté à ce phénomène incroyable. Il y avait une espèce d'énorme boule jaune dans le ciel, là, un peu comme la Lune, sauf qu'elle dégage de la chaleur. Une boule de feu, je dirais, dans le ciel en journée, tout le week-end. Le soleil, voilà, c'est ça. Ouais. J'en avais déjà entendu parler, mais à Paris, j'avais jamais vu ça en février. 2 jours de soleil d'affilée, sans un nuage. Conséquence, vous l'avez peut-être vu dans les JT, les gens ont profité de la douceur pour se balader. C'était le cas notamment sur les quais à Paris. Une attitude qui l'a réveillé. Mais si, vous le connaissez, je parle de lui. Armé de son smartphone, il erre dans les rues à la recherche de passants. Il a du réseau, il a la 4G et de la batterie. Dès qu'il observe plus de 6 personnes en extérieur, il ouvre l'application de son téléphone et il mitraille. Puis inonde les réseaux sociaux de clichés pour dénoncer l'irresponsabilité des Français. C'est lui, le justicier du web, Didier Poucave. Non mais regarde-moi ça, quelle honte! On est en pleine pandémie, ils pourraient rester chez eux à relire Hamlet, mais non, ils sont là, avec leur masque, à marcher un samedi en plein air pour profiter du soleil avant 18h, dans des lieux où c'est permis. Ils ont le droit et ils le prennent, Evelyne. Et ils sont contents en plus, hein. C'est quand même un monde ça. Ah c'est fou, la moindre petite fenêtre de liberté, la moindre soupape, le seul petit moment agréable dont ils peuvent profiter, ils se ruent dessus. Allez hop, ça part sur Twitter. Les gens marchent dehors, irresponsabilité totale. Qu'attendez-vous pour lutter contre l'effet balade au soleil? Que fait la police? At Anne Hidalgo, at Didier Lallement, at Gérald Darmanin, at Non-Stop People. Et voilà, c'est envoyé.
Excusez-moi, monsieur Poucave, mais enfin, si vous avez pris des photos, c'est que vous aussi, vous étiez présent sur les quais?
Oui, mais c'est différent, moi. Moi, j'étais là pour constater, pour dénoncer, monsieur, et me plaindre du fait qu'il y avait trop de monde. Ça n'a rien à voir. Merci de ne pas tout mélanger. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Je vous rappelle que je suis à la fois épidémiologiste, préfet de police et sélectionneur de l'équipe de France. Attendez, excusez-moi 2 secondes.
Et oh Stéphane Bern, tu crois que je t'ai pas vu? Si, t'as baissé ton masque pour boire ton café. Remets-le ou je balance la photo sur Twitter. Inconscient, va.
Bon, je vous laisse. Le devoir m'appelle, Mathieu.
Ouh, merci Bertrand Chameroy et merci cher Poucave. J'ai l'impression qu'on va se revoir là tous les matins à 7h40 sur Europe 1. Merci Bertrand et à tout à l'heure, 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média.
Europe Matin. Le 7-9.
7h42 sur Europe 1. Nous prenons le temps pour comprendre ce monde dans lequel nous vivons, monde chamboulé bien sûr par la pandémie. Ce matin, nous interrogeons la notion de limites, ces restrictions qui nous entravent, mais aussi les limites de nos systèmes, les limites écologiques que nous rappelle la planète. Mon invité ce matin est philosophe et écrivain Roger Paul Droit, qui publie avec Monique Atlan Le sens des limites aux éditions de l'Observatoire.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Roger Paul Droit.
Bonjour.
Et merci de nous aider à prendre du recul ce matin. Dans le livre, vous citez Camus, un homme ça s'empêche.
Oui, parce que ça c'est une phrase que Camus utilise dans un de ses romans. Il parle de Cosserie, son père, c'est la guerre d'Algérie. On découvre le cadavre mutilé atrocement de quelqu'un qui a été tué. Or, l'idée c'est qu'on peut tuer quand c'est la guerre, enfin quand il n'y a pas d'autre moyen, mais on ne met pas en scène de façon obscène le cadavre de l'ennemi. Un homme, ça s'empêche, ça veut dire que si on laisse tout faire, si on n'a aucune limite qu'on se pose à soi-même, et l'éthique, c'est une affaire de limite, toujours, alors on va dans la barbarie, dans la démesure, dans finalement la violence et le meurtre sans cran d'arrêt.
Et on va parler de ces limites, précisément, Roger Paul Droit, limites qui nous constituent, et comprendre avec vous ce matin que ce n'est pas forcément une notion négative.
Absolument, parce qu'aujourd'hui, nous nous cognons tous les jours aux limites.
Ça vient heurter nos sociétés libérales. Pardonnez-moi, la pandémie, oui. Les restrictions, le fait de devoir montrer un papier pour sortir.
Mais évidemment. Et puis nous sommes dans nos déplacements, dans nos horaires, dans nos possibilités de sortie, d'aller au resto, de voir les amis, de voyager, absolument entravés, d'une manière qui devient effectivement pour beaucoup insupportable et très pénible. On a découvert aussi, plus généralement, à travers la pandémie depuis un an, des méga-limites. Les limites de nos connaissances, les limites de nos capacités, même si le vaccin a été découvert très vite, à produire ce vaccin, à l'injecter, les capacités aussi de chacun d'entre nous à résister au stress, à prévoir la sortie de crise, l'avenir. Toutes ces incertitudes sont effectivement pesantes et sont des limites. Mais avec Monique Atlan, dans ce livre qu'on a commencé avant la Covid...
Oui, je vais y venir justement.
Voilà. En réfléchissant sur le sens des limites, on a voulu montrer que l'idée de limite que nous percevons comme une espèce de contrainte insupportable, de barrière, de mur qui nous empêche d'avancer, eh bien, il faudrait, pour sortir de nos crispations, il faudrait peut-être la voir différemment. La voir dans ce qu'elle a de positif, de riche, de subtil. Il ne s'agit pas de dire que les limites, c'est bien, mais il s'agit de comprendre que c'est beaucoup plus subtil, riche, fécond et vital que on ne le pense généralement.
Et structurant, j'insiste. Alors vous le disiez, le livre, vous avez commencé ce travail avant l'épidémie. Alors évidemment, la situation exacerbe tout ça. Vous avez certainement dû vous dire, au moment de l'écriture, que vous étiez sur la bonne voie. Mais bon, avant l'épidémie, les limites dont nous parlons, elles étaient, pour certaines, déjà là, dormantes. Il y a des signaux qui vous ont attiré vers le sujet, Roger Paul Droit. Je pense à comme une douleur qui dormirait, qui se réveille.
Oui, on pourrait dire, si vous voulez, que notre époque vit une très intense crise des limites. C'est autour des limites que toutes nos querelles idéologiques, politiques, sociales se fixent.
Y compris de l'autre côté, je me permets de vous couper, oui. Parce que quand le président de la République dit « quoi qu'il en coûte », c'est de ça dont il s'agit précisément, c'est de surpasser certaines limites.
Il fait du sans limite du côté, effectivement, du budget face à la crise. Mais le... illimité contre limite partout, cette attitude, ce conflit-là, il est absolument général. Regardez, avant la Covid, eh bien, et même encore aujourd'hui, il y a le refus de toute limite. L'idée, pour être libre, il faut toutes les balancer, toutes les mettre de côté, toutes les jeter, et avoir un monde fluide où il n'y aurait plus de frontières entre les pays, plus de frontières non plus entre les devises, entre les genres. Vous voyez l'idée qu'il n'y a plus de limite nulle part, que le travail, la vie privée, la vie publique, tout ça, finalement, est sans barrière. Et que ce serait bien qu'il n'y ait aucune limite. Et puis, à côté de cela, en face, il y a des gens qui veulent réimposer partout des limites, des interdits, des frontières, des barrières. Soit les populistes, soit les écologistes, punitifs en tout cas, vous voyez, qui disent attention.
Il y a aussi
partout
l'idée de croissance infinie dans un monde voilà, dont on subit
alors,
les limites.
Nous ne pouvons pas, évidemment, continuer à vivre comme si nous avions trois planètes et demie, alors que tout le monde sait que nous n'en avons qu'une, bien sûr, mais l'idée, c'est de ne pas, si vous voulez, transformer les limites en punitions, en barrières, et de comprendre, et c'est ça le sens du travail qu'on a essayé de faire, de comprendre que finalement, quand on est dans le tout ou le rien, toutes les limites, aucune limite, eh bien on est finalement dans une radicalité qui est fondée sur une chose très insuffisante, qui est une conception fruste de la limite, comme simplement une barrière. Alors que c'est un filtre aussi.
Vous utilisez le mot barrière, Roger Paul-Droit, oui. et le mot filtre à l'instant. Précisément, j'y viens, que ce soit à l'aune de la crise migratoire ou de celle du Covid, il y a la notion de frontière qui est revenue, et on le voit encore ce matin avec cette question mosellane. Mais il faut toujours regarder du côté de l'histoire des mots. Je regardais dans votre livre, le mot limite nous vient d'un vocabulaire de découpage des surfaces agricoles en latin, et en français, le mot limite, à l'origine, ne définit pas la frontière, mais le chemin entre deux champs.
Absolument.
C'est une zone en soi, la limite.
Mais oui, chez les poètes latins, par exemple, le mot d'où ça vient, limitor, ça veut dire ouvrir un chemin. Ça ne signifie pas fermer un espace, mais au contraire, faire d'une certaine manière une possibilité de circulation.
Et l'histoire nous a donné des limites qui sont, enfin, je pense au mur de Berlin, bien sûr.
Oui.
En soi, c'est une limite et c'est resté en tant que tel.
C'est resté, mais en même temps, si vous voulez, la limite, elle sépare, mais aussi elle unit. Elle unit les deux bords qu'elle délimite. Elle permet des circulations, elle permet des filtres, elle permet des unions, et elle permet surtout l'idée de bord, de contour, de délimitation. Or, un organisme, une cellule ou un corps, il n'existe qu'en fonction, vous voyez, de ces bords. Et l'idée, par exemple, de se dire, eh bien, une limite, il faut la penser comme la peau, qui est sensible, qui a des échanges avec son milieu, qui n'est pas simplement une barrière qui clôt, mais quelque chose qui vitalement organise, ça change fortement la manière dont nous pouvons penser les limites comme quelque chose qui finalement contraint une part de liberté illimitée, de grands fantasmes, des choses comme ça, mais qui en même temps est aussi ce qui organise la possibilité qu'on vive ensemble. On était parti de un homme, ça s'empêche. Eh bien, le fait que l'homme s'empêche lui permet de respecter les autres, de vivre ensemble et d'organiser une société.
Ça sépare et ça partage et en même temps ça sert de filtre aussi. Une dernière question, Roger Paul-Droit, et c'est en reprenant vos travaux précédents que je me la suis posée. Ce que vous définissez, Roger Paul-Droit, comme un héros, c'est pas précisément celui qui transgresse, qui enjambe ses limites?
C'est celui qui, en tout cas, pose de nouvelles limites, absolument. C'est celui qui pose de nouvelles limites, mais qui ne les efface pas. De la même manière que le sportif qui bat un record, eh ben, il n'a pas effacé les limites, il a franchi quelque chose et il a posé par son record une nouvelle limite à dépasser. Le héros, c'est celui qui, d'une manière ou d'une autre, déplace les normes habituelles, mais pour en fixer de plus grandes.
Merci beaucoup, Roger Paul-Droit. Je dois être quelque part une forme de héros tous les matins. Je salue Jean Lénaf qui réalise cette émission avec brio, puisque tous les matins, je dépasse un tout petit peu la limite du temps qui m'est imparti. Mais je voulais absolument partager ces réflexions avec nos auditeurs ce matin. Roger Paul-Droit, il faut lire justement cet ouvrage, Le sens des limites, aux éditions de l'Observatoire, ouvrage que vous avez écrit avec Monique Atlan. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'être venu échanger avec nous ce matin, nous apporter quelques clés de philosophie dans ce monde si chamboulé. 7h51.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'édito politique, Nicolas Bétou, va parler de la réforme de l'assurance chômage dans un instant, tout de suite.
7h53 sur Europe 1.
L'édito politique de Nicolas Bétou avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
Alors que la plupart des réformes économiques et sociales ont été suspendues depuis le début de l'épidémie de Covid, bien sûr, celle sur l'assurance chômage devrait entrer dès demain dans sa dernière phase.
Oui, puisque Elisabeth Borne, la ministre du Travail, présentera aux partenaires sociaux le dispositif tel qu'il a été retenu par le gouvernement. Ce sera une phase importante dans le déroulement du quinquennat, importante mais aussi un peu irréelle.
Une phase irréelle, pourquoi ?
Eh bien parce que rien ne s'est passé et rien ne se passera comme prévu. À l'origine, en 2019, c'était une autre époque, hein, c'était avant le
c'est
Covid.
Loin, hein.
C'est loin. Hein. La réforme avait été ficelée et imposée aux syndicats comme au patronat, qui chacun, pour leur compte, s'était montré plus ou moins mécontent. Bon, le jeu social classique. Or, cette réforme, dans le déroulé du quinquennat Macron, devait être la suite logique de celle du droit du travail avec les fameuses ordonnances de 2017. Logique parce que, une fois un peu de flexibilité mise dans le droit social, il fallait inciter les chômeurs à activer leur retour vers l'emploi et aussi chasser quelques abus du système français. Par exemple, le recours abusif au CDD, aussi bien du côté de certains chefs d'entreprise que de salariés qui jouaient avec les règles de l'Unédic. Bon, tout ça, évidemment, a été stoppé net par la crise Covid et par l'explosion du chômage.
Et c'est donc cette réforme qui est relancée, elle le sera telle qu'elle ?
Alors non, c'est impossible, je vous donne deux exemples. Est-ce qu'on peut demander au secteur de la restauration, qui est en quasi-mort clinique, de renoncer, lorsqu'il pourra réouvrir, à l'usage répétitif des CDD ?
Je vous regarde faire.
Voilà, est-ce que, même chose, on peut dire à un jeune planté par la crise de l'emploi qu'il lui faudra davantage de mois de cotisation pour espérer toucher une indemnisation chômage ? Évidemment non.
Alors dans ces conditions, qu'est-ce qui va changer ?
Ben, la philosophie générale du texte. Une partie des dispositions qui fâchaient ont été adoucies, arrondies, abolies, d'où la question fondamentale. Est-ce qu'il fallait absolument, dès maintenant, reprendre cette réforme, quitte à lui enlever une partie de son sens ?
Enfin, tout de même, on a appris la semaine dernière, Nicolas, que le déficit de l'assurance chômage avait été de près de 18 milliards en 2020.
Ce qui crée une sorte d'urgence à retrouver le chemin de l'équilibre, je suis d'accord. Mais la réforme telle qu'elle sera présentée demain pourra permettre d'économiser quoi, 1 à 2 milliards par an. Ce n'est donc pas à la hauteur. Non, on voit bien que l'objectif prioritaire du gouvernement, il est politique, c'est de cocher la case réforme. Alors faut-il reprendre les réformes pour dire qu'elles sont faites, que le gouvernement n'a pas renoncé à gouverner, quitte à le faire à minima ? Faut-il préférer une réforme immédiate et sous contrainte à une bonne réforme plus tard? C'est tout le sujet qui nous sépare de 2022.
Votre édito, c'est tous les matins d'Europe Matin avant 8h. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et tous les matins, on retrouve Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, chargé d'une mission sur la formation des professeurs à la laïcité à l'école. Et c'est bien sûr le ministre de l'éducation nationale qui est venu lui dire un mot.
Oui, bonjour monsieur Bétou, bonjour monsieur Béliard. Je mesure la joie que vous avez, monsieur Béliard, de voir revenir Sonia Mabrouk. Je sens que vous êtes au bout du rouleau. Vous n'auriez pas tenu 24 heures de plus. En plus, cette interview de Roger Paul Droit, je sens que vous êtes ressorti tout de travers. Vous n'avez pas tout compris, peut-être. Alors, pardon. La mission de formation sur la laïcité, puisque c'est la question que vous me posez, comment ça se passe ? Eh bien, cette mission de formation sur la laïcité se passe sous forme d'un stage d'une semaine, avec un programme très précis, le lundi matin de 8h à 10h, un cours magistral sur la laïcité. Et puis le reste de la journée est consacré à un stage d'autodéfense en cas d'agression par les élèves. Le mardi, c'est donc initiation au Krav Maga, le mercredi, jiu-jitsu brésilien, le jeudi, boxe thaï et MMA, le vendredi, bien sûr, les gestes de secours élémentaires, oui, garrot, etc., en cas de blessure d'un collègue par hache, tronçonneuse ou arme à feu. Voilà, je pense qu'il était nécessaire, il me paraissait normal de la part de l'éducation nationale, de nous adapter aux nouvelles générations d'élèves devenus, comment dire, un petit peu turbulents, voire même chahuteurs.
C'est Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière. Oui, vous remarquez, après le cours de boxe thaï et de MMA, c'est bien le geste de premier secours le vendredi. Pour le coup, le planning a du sens. Bon. 8h15, Jean-Pierre Aubin au micro de Sonia Mabrouk. Et 8h45, vous l'avez entendu, il est là ce matin, Nicolas Canteloup, pour la revue de presque. À tout de suite.
7h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Bon, j'ai essayé d'être plus clair qu'à 7h30 où j'ai baragouiné une météo qui n'était pas très compréhensible.
Oh, joli, joli le baragouinage bah... pour Stéphane Bern.
Pardon l'image, chers amis. Premier point, il fait froid ce matin, moins 4 à plus 5 degrés, donc couvrez-vous, mais les températures vont s'envoler cet après-midi, 11 à 14 sur la moitié nord, 16 à 20 sur la moitié sud. Mardi et mercredi, même type de temps, c'est frais le matin, c'est doux l'après-midi et il fait beau. Jeudi, vendredi, un passage pluvieux, jeudi dans le nord, vendredi dans le sud, avec un peu de neige en montagne. Donc c'est pas joli joli. Samedi et dimanche, retour du soleil, mais avec une bonne fraîcheur aussi, le soleil dans l'après-midi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi prochain, c'est-à-dire 8, 9, 10, 11 mars, eh bien nous aurons un peu le même temps, c'est-à-dire un temps ensoleillé et un peu frais le matin. Et ensuite, retour des vents et peut-être de la pluie de l'océan. Voilà, j'espère avoir été plus clair, c'est pas difficile. J'ai tellement été nul tout à l'heure que je me suis rattrapé.
Vous êtes parfait, Laurent Cabrol, vous êtes parfait. Merci Laurent.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.